Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être là, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous d'arriver chez RMC. Eh bien, sachez que nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux, comme tous les dimanches, avec à mes côtés Laetitia Barlerin. Ensuite, ce sera l'automobile, avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra à partir de 8h. Toutes vos questions auto au 32-16, bien évidemment. Et on vous permettra aussi de parler de la COP21, sujet intimement lié à l'automobile, hein, puisque vous savez quand même que les véhicules polluent énormément. Et il y a pas mal d'initiatives liées à l'automobile, à l'environnement. On évoquera quelques cas précis tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau. Mais d'ici là, bien sûr, notre rendez-vous animaux, Laetitia, avec vous. Et puis, bien sûr, vos questions au 32-16. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets qu'on va évoquer ensemble. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, ce sera notre concours RMC, Laetitia. Laetitia, je suis sûr que vous rêvez d'avoir une montre connectée.
Ah oui. Je peux jouer alors?
Non.
Oh,
ah ben non, vous ne pourrez pas jouer. Mais dans quelques instants, je vais vous expliquer à vous qui nous écoutez comment vous allez pouvoir emporter cette montre connectée que RMC vous offre. C'est notre grand
pseudo.
Noël RMC.
Avec un pseudo.
Oui, si vous voulez, mais alors je ne veux pas le savoir. Vous ne me racontez pas tout ça, d'accord? Tout à l'heure, on va parler des conséquences du réchauffement climatique sur les animaux en Antarctique. On évoquera aussi les animaux sauvages dans les cirques et la sortie de la suite de Belle et Sébastien. Mais dans l'immédiat, on va parler dictons et climat.
Et oui, et nous sommes avec François Lasserre, qui est auteur de Araignée du soir, Espoir. Et oui, c'est un dicton aux éditions de La Chaux et Niessé. Bonjour François.
Bonjour Laetitia.
Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup climat hein, cette semaine, mais alors c'est un peu anxiogène. Alors moi, je voulais avec vous parler d'un climat d'un point de vue un peu plus léger. Il faut dire que, ben voilà, il y a eu un temps où on n'avait pas la radio, la télé, on n'avait pas nos bulletins météo, nos miss météo, et du coup, il fallait bien savoir si le lendemain, il allait pleuvoir ou pas. Donc, on se référait quelque part au dicton, c'est ça?
Oui, et surtout aux animaux qui nous entouraient, aux éléments de la nature, parce qu'on n'avait absolument aucun référent, on n'avait pas de baromètre, rien du tout. Donc il n'y a que les animaux ou alors le bout de notre nez qui pouvaient nous indiquer quelque chose.
Alors, nous allons voir avec vous quelques dictons pour voir si c'est vrai ou pas.
Hein. Il y en a quand même certains qui sont gratinés quand même. Hein.
Alors, on va commencer par la grenouille. Parce que c'est vrai que quand on pense à météo, on pense à la petite grenouille sur son échelle. Et il y a un vrai dicton avec une rainette qui dit « Quand la rainette chante dans le bas du buisson, c'est signe de pluie. Si elle chante au sommet, c'est signe de beau temps. » Alors, c'est un peu comme l'échelle. Est-ce que ça marche ou pas, ça?
Alors, ça fait partie de ces rares dictons parce que peu de scientifiques se sont penchés sur ces dictons un peu folkloriques ou locaux. Mais ça fait quand même partie, celui-là, des dictons qui ont été testés scientifiquement, en tout cas avec la grenouille dans le bocal.
Oui.
Il y a eu une étude et on a comptabilisé le nombre de fois où effectivement elle grimpait en haut de l'échelle et le nombre de fois où elle restait en bas par rapport à la météo. Et malheureusement, c'est archi faux.
Ah, c'est faux. Oh bah zut. Alors, il y en a une autre sur les grenouilles, c'est grenouille qui coasse le jour, pluie avant 3 jours. C'est super...
C'est précis.
C'est super précis.
Voilà.
Il y en a qui sont un peu surprenants, comme vous le disiez, ils sont extrêmement précis, alors que vous le savez bien, la météo, ça fait partie vraiment de ces choses qui sont tellement imprécises, souvent, et c'est souvent faux, c'est souvent au son des animaux qu'on va associer. Alors peut-être qu'un jour c'est arrivé, peut-être qu'un jour cette grenouille-là a décidé de chanter parce qu'il pleuvait et que ça s'est répandu comme une traînée de poudre.
Ah oui, c'est
un peu ça. Mais en tout cas, tous ceux qui connaissent la météo, tous ceux qui connaissent les grenouilles, savent que la grenouille ne va pas chanter parce qu'il va chanter, surtout pas parce qu'il va pleuvoir, surtout pas parce qu'il va pleuvoir dans 3 jours.
Bah, c'est vrai que pas mal d'animaux annoncent la pluie. Hein. J'ai vu dans votre livre, c'est incroyable. Même l'âne qui braie, le terme précis, c'est âne qui saute. Ah, il faut qu'il saute.
Ah, il faut qu'il saute aussi.
Braie sans fin. Pluie pour demain.
Pluie pour demain. Voilà.
Alors, ça vient d'où, ça?
Alors j'ai appelé moi tous les spécialistes de ces animaux aussi pour vérifier la véracité. Donc j'ai appelé des âniers, c'est le terme des gens qui s'occupent des ânes. Oui. L'âne ne va pas sauter et brer sans fin quand il pleut. Alors il y aurait une explication, parce qu'on essaye quand même toujours de trouver le vrai.
Oui.
Du faux, c'est que peut-être, pourquoi pas, c'est vrai que quand un orage arrive, les petits insectes, eux, sentent bien que ça va tourner au vinaigre et qu'ils descendent pour s'abriter. Alors peut-être que parmi ces insectes, il y a les insectes piqueurs, comme les temps, ou d'autres petites mouches suceuses de sang, et qui se mettraient à piquer peut-être davantage lorsqu'un orage assez conséquent arrive, et du coup l'âne
est un peu excité.
Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il va crier, c'est pas pour ça qu'il va plutôt agiter la queue ou les oreilles, mais voilà, ce serait un début d'explication, mais bon, qui est tout à fait aléatoire.
Alors il y a pas mal de dictons avec les hirondelles. Alors le plus fameux, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps.
C'est... Tout à fait.
Donc là on est assez d'accord.
Pour dire quoi? Qu'est-ce que...
Bah, qu'une hirondelle ne fait pas de printemps,
en fait. Parce que des fois, elles arrivent, mais il fait encore très froid, non?
C'est un peu vrai. On est plus sur le domaine du proverbe que du dicton, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire que les premières hirondelles à arriver vont arriver début mars, parfois dès le 5 mars. En revanche, elles n'arrivent jamais seules, parce que ces oiseaux-là n'arrivent jamais seuls. Donc, les premiers arrivés sont les vieux mâles, d'ailleurs, qui ont de l'expérience.
Oui.
Mais ils n'arrivent jamais seuls. En revanche, c'est vrai qu'ils arrivent début mars. Mais le gros de la troupe arrive quand même vraiment pratiquement pire au moment du printemps, aux alentours du 20-25 mars. Là, ils sont rejoints par d'autres mâles, les femelles, les jeunes, etc. Donc c'est un petit peu vrai, mais elle est jamais seule. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même ces hirondelles, ça fait partie de ces oiseaux. Les anciens l'avaient évidemment remarqué très tôt. Ça fait partie de ces oiseaux qui sont là, qui sont en France et puis qui un jour disparaissent. Presque beaucoup d'oiseaux, quasiment tous les oiseaux, beaucoup d'oiseaux migrent. Mais il y en a plein qui sont tellement discrets toute l'année qu'on s'en rend absolument pas compte. Par exemple,
oui.
le petit rouge-gorge que vous aviez dans le jardin, ben un jour il va partir en Norvège et vous savez même pas où il va partir, pardon, en Afrique, et vous l'avez même pas remarqué, il est assez discret. Alors que ces hirondelles qui chassent les insectes ou les martinets sont vraiment des repères que nos aïeux avaient remarqué très vite. Et les anciens le savaient, puisqu'au moment des Étrusques, de la Rome antique, etc., et de la Rome... de la Grèce antique, il y avait une confrérie qui s'appelait les augures, c'est des sortes de prêtres qui lisaient l'avenir ou qui disaient à l'empereur, oui, vous pouvez aller combattre un tel parce que les oiseaux se sont comportés de telle façon. Alors soit c'était les oiseaux domestiques et leur comportement dans la basse-cour, soit c'était en lisant dans les entrailles des oiseaux, ça c'est moins sympa pour les oiseaux,
oui.
Ou c'est pour regarder leur comportement, comment ils se comportent dans le ciel. Ça s'appelait les augures, et vous connaissez l'expression qui dit oiseau de mauvaise augure, ça vient de là.
Ah oui.
C'était des personnages très importants à l'époque, parce qu'on n'avait pas de baromètre.
Y en a un aussi qui a... Alors, celui-ci a l'air vrai, puisque vous le commentez, c'est le papillon blanc annonce le printemps. Et c'est vrai que visiblement, quand on voit des papillons blancs, surtout dans des potagers, les jardins, les choses comme ça, on peut être sûr que le printemps est là.
Disons que les insectes, on le sent à température ambiante. Donc ils ne peuvent pas voler quand il fait très froid. En dessous de 10-12 degrés, les insectes ne sont vraiment pas à l'aise. Et puis surtout, il y a des papillons qui attendent la longueur de la journée. Ils savent quand le jour commence à être de plus en plus long. Et à ce moment-là, là, ils se disent, OK, ça y est, la saison est là. Je peux commencer à sortir de mon hivernation, ce qui s'appelle une diapause chez les insectes.
Oui.
Et à ce moment-là, ils sortent. Et parmi les oiseaux qu'on va,
les insectes
qu'on va repérer le plus souvent, il y a des pierrides. Les pierrides sont jaunes, la pierride du chou, la pierride de l'arabe, la pierride du navet, etc. Et ceux-là se font remarquer. D'ailleurs, c'est quasiment les seuls papillons maintenant qui nous restent, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais ceux-là arrivent à tenir le coup parce qu'ils peuvent s'installer sur nos potagers. Et du coup, on va dire, alors ils peuvent sortir quand même quand il fait beau, un peu avant le printemps, mais c'est vrai que c'est quand même signe du printemps. Et à ce sujet, quand même, ça y est, on le remarque, ces insectes ou l'hirondelle qui arrivent commencent à arriver de plus en plus tôt.
Ah.
Donc il y a certains oiseaux.
C'est
qui
des
arrivent...
indicateurs de réchauffement climatique, alors.
Exactement. Et les ornithologues, ceux qui s'intéressent aux oiseaux, le savent. Il y en a qui construisent leur nid quasiment un mois avant les données un peu moyennes classiques. Et pareil pour leur arrivée. Et tout ça est en train de se décaler. C'est des bons marqueurs. Les scientifiques s'en servent. D'ailleurs, il y a des programmes de sciences participatives où on demande aux citoyens de nous signaler quand tel arbre a fait son bourgeon, quand tel papillon arrive, quand tel oiseau arrive. Et du coup, il commence à y avoir des données qui nous disent effectivement les oiseaux s'adaptent au changement climatique. Pas tous. Il y en a qui ne peuvent pas s'adapter, mais certains s'adaptent et c'est des bons repères.
Mmh. Alors, on va justement en parler avec notre prochain invité des oiseaux, mais au pôle.
Oui, ça c'est...
Comme les manchots, voilà.
On verra que les conséquences sont véritablement visibles. Hein. Merci beaucoup François Lasserre, araignée du soir espoir.
Voilà, c'était un livre vraiment original et on apprend beaucoup de choses sur les dictons et les animaux aux éditions de la Chaux et Niestlé. Merci
avec
François.
Avec des petites illustrations humoristiques assez sympathiques.
Ah oui, voilà. Et des dessins, des illustrations exactement qui sont super.
7h20, Laetitia, on revient dans un instant et on va évoquer les conséquences du réchauffement climatique sur les animaux en Antarctique. Et on va jouer ensemble, j'ai une montre connectée à vous offrir.
Le Grand Noël RMC, spécial week-end avec cdiscount.com.
Et oui, alors écoutez, voilà, là c'est la fête, c'est RMC, le sapin est là, illuminé. Et Laetitia, on offre donc une montre connectée. Une montre connectée Sony. Donc ça c'est cool, vous la branchez à votre smartphone et en gros ça vous donne des notifications. Par exemple quand quelqu'un vous appelle, eh bien votre montre va vibrer, quand vous allez recevoir un SMS, etc. Et vous pouvez installer des petites applis. Alors pour jouer c'est simple, il suffit de vous inscrire tout de suite et ça se passe exclusivement par SMS. Attention, on joue que par SMS, ni par mail et pas sur le 3216. Vous nous envoyez par SMS les trois lettres RMC au 73216. RMC au 73216. Et faites vite parce que l'un d'entre vous va être tiré au sort. Il y aura donc cette montre connectée et je vous donnerai le gagnant juste avant 8h. Donc à tout de suite, RMC au 73216. Bonne chance.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
h 23, c'est RMC, le week-end des experts avec Laetitia Barlerin, c'est les animaux. Et on va évoquer maintenant, Laetitia, les conséquences du réchauffement climatique sur les animaux en Antarctique.
Et direction l'Antarctique.
On y va, en direct.
En direct, nous sommes avec Christophe Barbeau, qui est ornithologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des espèces locales en Antarctique. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, c'est incroyable parce que...
Oui, alors il y a un léger décalage parce que vous êtes en Antarctique.
Vous êtes sur une base en Terre Adélie et vous êtes avec l'expédition Antarctica menée par Luc Jacquet. Alors Luc Jacquet, on le connaît, c'est le réalisateur oscarisé de La Marche de l'Empereur. Et donc vous êtes en mission avec lui. Alors dites-moi, vous qui connaissez bien la région, avez-vous bien constaté une fonte des glaces ?
Alors, moi, je viens en mission ici depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, depuis la première mission que j'ai effectuée ici, donc c'était fin 1992, on voit des changements au niveau de la glace, un petit peu au niveau de la banquise, et puis aussi au niveau de la bordure du continent antarctique, on voit des zones de cailloux en fait qui sont en train d'apparaître, conséquence de la fonte de la glace en périphérie du continent antarctique. Mais alors paradoxalement, si on regarde la banquise, depuis les 20 ou 30 dernières années, on observe plutôt en Terre Adélie une augmentation de la banquise, qui est aussi une conséquence du changement climatique. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est lié à des changements de circulation des vents qui isole cette partie de l'Antarctique du reste du climat de la planète et qui provoque un léger refroidissement et surtout une augmentation de la banquise ici. Et ça, c'est valable pour cette partie-là de l'Antarctique, donc la Terre Adélie, hein, la mer de Ross aussi. Par contre, si on va en péninsule antarctique, donc qui se situe au sud de l'Amérique du Sud, là, on a la même chose que ce qu'on observe en Arctique, c'est-à-dire là, on a une diminution vraiment énorme de la banquise depuis une vingtaine d'années.
Alors, en Terre d'Adélie, on a des manchots qui s'appellent les manchots d'Adélie, justement. On dit que les manchots sont des indicateurs, malgré eux, des changements climatiques. Qu'est-ce que vous avez observé en 15 ans sur les populations de manchots sur place ?
Alors sur les populations de manchots, en fait, on étudie deux espèces ici, puisqu'on a la chance d'avoir deux espèces qui sont autour de la base. Donc il y a le manchot d'Adélie, qui est le petit manchot noir et blanc, et puis il y a le plus gros, le manchot empereur. Donc ces deux espèces sont étudiées ici depuis une trentaine d'années. Ce qu'on observe alors chez les manchots empereurs, si on regarde depuis le suivi de la population qui remonte à 1950 à peu près, donc depuis l'installation de la base, il y a eu une chute de la population qui a à peu près diminué de moitié. Et ça s'est passé entre 1975 1975 et 1980. Et la raison principale qui est soupçonnée, c'est la diminution, il y a eu quand même une diminution de la banquise dans ces années-là, qui a diminué en fait l'habitat d'alimentation de ces manchots-là, et donc ils ont moins de nourriture, et ça a fait chuter la population. Maintenant, sur les manchots à Delhi, ben, pour le moment, on constate pas vraiment d'effet très fort ici, en terre à Delhi. Par contre, la même espèce, donc le manchot d'Adélie en péninsule antarctique, là, diminue énormément, parce qu'à nouveau, ben, là-bas, on a une diminution de la banquise. Donc les populations de manchots d'Adélie, de péninsule antarctique, sont en train de diminuer. Et on a d'autres espèces de manchots qui sont moins inféodées à la banquise, qui au contraire en profitent et augmentent dans cet endroit-là. Donc on voit vraiment un changement dans la distribution de deux espèces. Une espèce qui régresse parce que son habitat devient beaucoup moins favorable, et une autre qui augmente parce qu'au contraire, ça devient plus favorable.
Christophe Arbon, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants, hein, Laetitia, puisqu'il est bientôt 7h30. On va faire un point sur la météo et les infos, et on poursuivra sur ce sujet passionnant, hein, les conséquences du réchauffement climatique en Antarctique, avec évidemment des impacts sur les populations animales là-bas. À tout de suite, 3216 animaux@rmc.fr. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. La tia-tia, il est temps de retrouver une petite question flash. Est-ce que vous êtes prête à répondre à la question de Patrice?
Oui, je suis prête.
J'ai une femelle beauceron de 10 mois, nous dit Patrice. Elle écoute très bien, mais a tendance à toujours vouloir sauter sur les gens dès qu'elle les voit. Que faire?
Oh bah c'est normal, vous savez, les chiots, les chiens aiment bien sauter. Bah, d'ailleurs, pourquoi ils aiment sauter?
Pour être à notre niveau.
Au niveau de la
faire
face.
Des bisous.
Et oui, vous savez qu'ils échangent beaucoup, hein, quand ils se lèchent la face entre eux,
oui,
pour se dire bonjour. Donc ils veulent nous dire bonjour. Et en plus, on les encourage. Parce que petit, c'est tellement mignon quand ils nous sautent dessus pour nous faire des petits câlins. Et puis, quelques mois plus tard, on ne l'accepte plus. Donc il ne comprend pas, le chien.
Oui.
Donc il va falloir, comme elle est très obéissante, Patrice, et que c'est une race qui est vraiment obéissante, c'est très bien. Vous allez pouvoir, justement, l'éduquer pour qu'elle ne saute pas sur vos invités. Alors, d'abord, vous allez demander à vos invités de ne pas bouger quand elle saute, hein, de ne pas répondre à ses élans de joie, de ne pas lui parler, de ne pas la regarder, de ne pas crier, de ne pas la toucher, donc les mains dans les poches. Et vous allez venir et lui dire stop au pied. Et si elle ne fait pas, si elle ne vous regarde pas, vous allez aller vers la chienne et lui pincer, vous savez, derrière la tête pour la mettre au sol.
Ah oui.
Pour qu'elle aille au sol, parce que c'est un peu ce que fait d'ailleurs la mère quand elle veut que les chiots soient aplatis.
Oui, pour qu'ils obéissent, en fait.
Pour qu'ils obéissent. Mais ça fait pas mal, hein. Vous allez juste pincer l'arrière de la tête pour qu'elle aille au sol en lui disant coucher, et donc pour ne pas le faire, justement. Et puis une chose aussi importante, il faut lui apprendre à ne pas accueillir vos invités, c'est-à-dire c'est vous qui les accueillez, et après vous lui dites tu peux venir leur dire bonjour. C'est pas à elle d'ouvrir les portes et dire bienvenue
à la maison, les
vous
amis,
vous avez le bouquet de fleurs, tout ça, la bouteille de vin. Non, c'est pas à elle, c'est à vous. Voilà, mais comme elle est obéissante, ça va aller très vite, et vous allez voir que très vite elle va moins sauter.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire qui m'accompagne chaque dimanche, 6h-8h, un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer 2 heures entières dédiées aux animaux, chaque dimanche, donc 6h-8h. Laetitia, on évoque avec notre invité Christophe Barbeau les conséquences du réchauffement climatique sur les animaux en Antarctique ce matin.
Voilà, Christophe, rebonjour. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que le réchauffement climatique avait des conséquences sur la reproduction des manchots. Alors, on pense au manchot empereur, parce qu'il y avait le manchot empereur et le manchot d'Adélie. Le manchot empereur, c'est celui de La Marche de l'Empereur, le film de Luc Jacquet. Et alors, si je me souviens bien, c'est pour ça qu'il, pour mieux comprendre, dans le film, on voyait les parents manchots faire des kilomètres pour aller pêcher du poisson pour leurs partenaires et leur progéniture. Alors pourquoi, si la banquise diminue, ils ont moins de kilomètres à faire?
Oui, alors ça, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, les manchots vont aller chercher de la nourriture en mer, la ramener à la colonie, à leurs petits. Et ce qui va se passer, en fait, il y a deux phénomènes. La glace de mer, c'est assez complexe. Il y a un premier phénomène qui est ce qu'on a, c'est vraiment de la banquise qui est solide. Donc il n'y a aucune poche d'eau qui est vraiment de la banquise à perte de vue. Et si cette distance-là qui sépare la colonie de la mer libre, elle est trop importante, les manchots vont mettre trop de temps pour aller chercher de la nourriture, trop de temps pour revenir, et les poussins vont mourir de faim. Et ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière ici, en Terre-Adélie, et l'année d'avant, où là on a eu de la mortalité de poussins vraiment très massive. On a normalement une année normale on va avoir 2000 poussins et là il en est resté 100 de vivants avant. Donc c'était vraiment une hécatombe, tous les poussins mouraient comme des mouches sur la banquise. Donc ça c'est le premier phénomène qui est vraiment très important pour cette espèce. Et ensuite la glace de mer, il y a une autre forme de glace de mer qu'on appelle le pack en anglais et qui est de la glace de mer fragmentée. Donc là c'est des morceaux de glace qui flottent entrecoupés d'eau libre hein, de mer. Et c'est sous ce pack en fait que les manchots vont trouver leur nourriture. Ils vont trouver le krill, ils vont trouver des poissons, ils vont trouver des calmars. Et ça, c'est vraiment la zone où ils vont trouver de la nourriture. Et si cette zone de pack, elle, par contre, diminue, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup moins de nourriture pour les manchots. Et là, ça va leur poser problème. Donc ça dépend en fait du type de glace de mer qui va diminuer, augmenter à l'avenir, hein, sous l'influence des changements climatiques. Et c'est ça qui va déterminer un peu le destin de ces colonies de manchots.
Alors
l'année dernière,
oui.
C'était vraiment une. Pardon.
Oui, allez-y.
L'année dernière,
allez-y.
C'était vraiment des conditions extrêmes. Ce qui s'est passé ici l'année dernière et l'année d'avant, c'était vraiment des conditions extrêmes qui avaient jamais été vues. Où là, on avait de la banquise solide à perte de vue. On voyait pas l'eau de la base. Et les manchots devaient faire plus de 100 km à pied pour arriver à la première zone d'eau libre et pouvoir s'alimenter. Cette année, c'est totalement l'inverse. Là, on a l'eau actuellement qui est au pied de la base. Là, je la vois de la fenêtre. Et là, les manchots, ils ont quelques centaines de mètres à faire. Ils se mettent à l'eau et tout de suite, ils vont droit sur ces zones de pack où ils vont trouver leur alimentation. Et la conséquence cette année, c'est qu'on a énormément de poussins. C'est une des meilleures années depuis une cinquantaine d'années en termes de reproduction pour ces manchots. Et là, actuellement, il y a plus de 2500 poussins qui sont prêts à partir en mer.
Alors, c'est plus dérèglement climatique que réchauffement climatique. Alors, vous êtes avec Luc Jacquet qui, lui, attend beaucoup de la COP21. Il l'a dit dans un message qu'il espère que des décisions historiques seront prises et qu'elles auront un impact jusqu'en Antarctique. Est-ce que vous êtes aussi optimiste ?
Luc est optimiste, malheureusement je le suis un peu moins et pour moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à attendre d'une telle conférence. D'une part parce que les signaux d'alarme en fait du changement climatique et des conséquences sur la biodiversité et sur les sociétés humaines en fait a été déclenché il y a plus de 30 ans ou 40 ans. Il y a eu des conférences qui sont comme Rio, etc., qui ont été organisées entre temps, et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout infléchi la tendance, c'est-à-dire qu'on continue à vivre comme on le fait. Il y a toujours les mêmes développements économiques qui sont en plein boom. Donc moi je vois pas vraiment d'infléchissement. Et du fait de l'inertie climatique, ça, les climatologues en parlent sans arrêt, c'est-à-dire qu'on a maintenant dégagé tellement de CO2 que de toute façon on est condamné à subir ce réchauffement dans les années qui viennent. Même en prenant une décision maintenant et en changeant drastiquement nos modes de vie, je pense qu'on aurait quand même du mal à l'enrayer en fait. Et la preuve en est, c'est qu'actuellement la décision commune qui ressort, c'est de viser un réchauffement de 2 degrés. Donc on a déjà concédé ça.
Juste une petite question, Christophe, il fait quelle température actuellement où vous êtes ?
Ah ben aujourd'hui il fait très chaud, il fait 2 degrés là.
Ah
on
oui.
a un très beau soleil. Oui, non, là c'est très bien. Bon la nuit on descend à moins 6, moins 7, mais là c'est vraiment l'été qui s'est installé. Quand on est arrivé mi-octobre, c'était un peu plus frais, on avait plutôt du moins 20, moins 24, moins 16 la journée, avec du vent, donc là c'était vraiment des conditions un peu plus rudes. Mais là c'est très bien.
Et on peut descendre jusqu'à combien en conditions extrêmes ?
Alors en Terre Adélie, je crois que le record c'est de l'ordre de moins 40 à peu près, hein, moins 36, moins 40 dans ces eaux-là. Mais ça c'est la température sous abri. Ce qui est vraiment très difficile ici, c'est plus le vent, puisque c'est des endroits qui sont quand même très ventés. Et on a des vents qui peuvent monter à plus de 200, 250 km/h. Donc quand on a une température de moins 30 avec un vent de 180 km/h, on a un équivalent thermique, si vous voulez, une perte de chaleur qui équivaut à moins 70 ou quelque chose comme ça.
Ouais,
c'est ça qui est vraiment très dur.
Ce sont des conditions extrêmes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette expédition Antarctica qui se finit là ces jours-ci, il y a un site internet où vous mettra le lien sur Facebook et vous pouvez aller voir les vidéos. Il y a une vidéo chaque jour et vous allez voir les conditions aussi et les paysages et les merveilleux manchots aussi. Des images vraiment superbes.
Voilà, Christophe Varbro en direct de l'Atlantique, donc
merci,
grâce
Christophe.
De l'Antarctique,
et bon courage.
Avec une qualité de liaison quand même impressionnante alors qu'il est à des milliers de kilomètres de Paris. Sans transition, on va parler maintenant des animaux sauvages dans les cirques, Laetitia.
Et nous sommes avec
le seul, l'unique, notre maître Xavier Baquet.
On, 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 direct de la Côte d'Opale.
Voilà. Oui, il fait un peu plus doux quand même, maître, j'imagine.
Les manchots souffrent du réchauffement climatique là-bas ou pas?
Non, mais les phoques se portent bien. Les phoques se portent bien. Ils sont dans l'eau. Ils passent en petite tête. J'en ai encore vu hier.
Ah oui.
Malgré la tempête. Oui, bien sûr. On a pas mal de, une colline de phoques qui sont dans baie de Somme, mais aussi en baie de Ganche. Ouais. Donc voilà, c'est très sympathique.
Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 millions d'amis, rappelons-le.
Voilà. Alors avec vous, Xavier, on va parler d'un thème d'actualité puisque en cette période de fête, il y a beaucoup de cirques dans les villes, bien entendu, avec pour la plupart des numéros avec des animaux sauvages. Mm-hmm. Et je sais que la Fondation 30 millions d'amis, pour laquelle vous travaillez, se bat contre les cirques qui détiennent des animaux sauvages dans des conditions déplorables. Mm-hmm. Dernière affaire en date, début novembre, la Fondation a fait saisir dans un cirque 4 babouins et un puma, si je compte bien. Que s'est-il passé dans ce zoo?
Quelque chose de très classique, c'est-à-dire que vous aviez des animaux qui étaient détenus. C'est surtout les conditions de détention qui ont généré ce retrait, qui étaient détenus dans des cages très exiguës. Pour une ordre d'idée, le puma n'avait à peine que 3 mètres carrés. Et les babouins étaient dans des cages également très très exiguës en plein soleil. Et surtout, il n'y avait pas d'autorisation préfectorale.
Vous savez, détenir les animaux.
Voilà, tout à fait. Donc tout ça a entraîné le retrait. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que... Alors là, pour l'instant, sur ce dossier, je ne peux pas dire quelle qualification sera retenue par le ministère public. Pour nous, il y a mauvais traitement à partir du moment où les conditions de détention ne correspondent pas aux besoins physiologiques et biologiques de l'animal. Donc,
ce qui est la loi.
Ce qui est la loi, c'est l'arrêté de mars 2011 qui fixe les conditions de détention, les conditions de présentation au public, enfin, qui est très strict. Bon. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, cet arrêté a été pris aussi sous l'impulsion, notamment de 30 millions d'amis. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années où on avait saisi beaucoup d'hippopotames, et effectivement, maintenant, les conditions, par exemple, pour les hippopotames sont drastiques. Et on oblige, par exemple, un bassin de 30 mètres cubes d'eau, ce qui est un minima pour un hippopotame, parce que comme vous le savez, si l'hippopotame n'est pas dans l'eau, il s'écrase les os, notamment les os plantaires, parce que c'est son poids qui l'écrase. Donc ça, c'est un exemple de combat qu'on a gagné. Bon. Et pour ce puma et ses 5 babouins, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que les conditions de détention ne respectaient pas leurs besoins et les détenteurs n'avaient pas les certificats nécessaires. Enfin, au moins, le certificat de capacité, ils l'avaient, mais en tout cas, pas l'autorisation préfectorale d'ouverture et de présentation.
Et voilà. C'est grâce à ça que vous avez pu faire saisir ces animaux. Parce que les procédures durent longtemps. On a l'impression qu'on revoit chaque année arriver le même cirque avec des animaux, parfois dans des conditions déplorables.
Oui, mais vous avez la réponse dans la question. Que fait un cirque? Par définition, il est itinérant. Donc, à partir du moment où on identifie le cirque dans la zone A, c'est le préfet de la zone A qui est compétent. Donc le temps que l'on saisit ces autorités, que les autorités se mettent en place, que les autorités nous confient les forces de gendarmerie et de police pour pouvoir intervenir, le cirque va déménager, va aller ailleurs, va aller en zone B. Donc il faut que l'on recommence en zone B. Et c'est sans cesse, si vous voulez. Donc ça crée des procédures administratives longues, des procédures de saisie longues, mais... D'un côté, les cirques se jouent de ça en disant « mais ils vont s'épuiser ». De l'autre, vous le savez très bien, la Fondation, ça fait 40 ans qu'elle est déterminée et elle continuera toujours. Donc effectivement, à partir du moment où on nous signale un dossier, on nous signale un cirque qui ne rentre pas dans les clous, eh bien entre le moment où on nous le signale et le moment où on arrive à retirer les animaux qui posent problème, il peut s'écouler de longs mois, voire une année. Voilà.
Alors, vous savez qu'on fait un sondage ce matin auprès de nos auditeurs, donc sur le site RMC, sur le site Wamiz. Alors, sur Wamiz, on leur demande, êtes-vous favorable à la présence d'animaux sauvages dans les cirques? 98% des internautes disent non. Je crois qu'on se rapproche de ce chiffre-là pour RMC.
On est à 85% en fait sur RMC.
Alors, on sait qu'il y a de plus en plus de villes qui interdisent la présence de cirques avec des animaux sauvages, de plus en plus de pays en Europe. Alors j'ai vu, on avait l'Autriche, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Hongrie, le Royaume-Uni, Chypre, Malte. Ça évolue. Est-ce qu'on évolue vers une législation européenne qui interdise les animaux de cirque? Et deuxième question, est-ce qu'on peut quand même avoir des besoins physiologiques qui sont respectés quand on fait du cirque en itinérance, quoi.
Alors, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce qu'on peut avoir des besoins physiologiques respectés ? Oui, mais ça nécessite des moyens financiers importants. Donc, ça va vouloir dire que seul pourrait, je mets le conditionnel, seul pourrait détenir les animaux sauvages en cirque, les grands cirques, qui ont les moyens d'avoir de très grands véhicules de transport, de très grandes cages, avec tout un personnel pour surveiller les animaux, notamment quand ils sont en extérieur, dans leurs enclos. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, sur la législation européenne, oui, on s'aperçoit qu'effectivement, on progresse lentement, mais sûrement, vers une interdiction des animaux sauvages en cirque. Mais ça me paraît une évidence. Je veux dire, quand on nous dit que sans animaux, le cirque meurt, c'est faux. Prenez le succès du Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous êtes,
oui.
Malgré les attentats, le Cirque du Soleil joue les prolongations. Ils sont complets tous les soirs.
Donc, alors qu'il n'y a pas un animal.
Il n'y a pas un animal.
Oui.
Donc, c'est la preuve par A plus B que l'animal, j'ai envie de vous dire, pour nombre de petits cirques, et attention, je dénigre pas, mais c'est une espèce d'attrait du chaland qui veut dire, tiens, il y a un lion, on y va. Mmh. Mais un petit cirque qui n'aura pas grand-chose à présenter, malheureusement. Je veux dire, donc, quelque part, si ces cirques-là continuent sur cette voie-là, ils vont vers leur propre mort. Et ça, pour l'instant, ils ne le comprennent pas, parce qu'il y a un lobby qui est assez important et virulent, surtout. Et j'ai d'ailleurs le souvenir d'avoir été personnellement vilipendé par quelqu'un de connu dans ce lobby. Enfin bon, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que seuls soit les grands vont résister, en donnant les assurances requises, ou alors ça va disparaître. Et puis, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la France, une fois de plus, vous avez tous ces pays dans l'Autriche, et on ne peut pas dire que l'Autriche soit un pays d'ouverture par excellence, eh bien, la France, une fois de plus, est à la traîne.
Ça fait pas mal de pays.
Voilà,
quand même,
on est à la traîne dans les droits de l'homme, on est à la traîne pour ça aussi, et il faut sans cesse remettre le travail sur le bio pour qu'on puisse y arriver. Donc moi, je ne désespère pas qu'on y arrive. Oui, nous sommes contre les animaux sauvages dans les cirques, dans des conditions comme celle-là, et puis je veux dire, mais quel est l'intérêt de présenter une girafe dans un enclos de 10 mètres carrés? Enfin, je veux dire, c'est assez ridicule.
Maître, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Bonne balade sur la plage.
Et surtout, votez bien.
À bientôt, maître.
Au revoir.
Et oui, il faut voter aujourd'hui. Pratiquement 8h-10, c'est RMC, on revient dans un instant. Et nous aurons avec nous Laetitia, le réalisateur de Belle et Sébastien, l'aventure continue.
Qui sort mercredi sur les écrans.
Et bien voilà, on va en parler avec Christian Deguay qui sera avec nous dans une minute sur RMC dans ce week-end des experts animaux. Le 32-16 ou bien animaux@rmc.fr pour nous joindre à tout de suite.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h51, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia, on va s'intéresser maintenant à un film qui sort en salle dans quelques jours, mercredi prochain. Il s'agit de Belle et Sébastien, l'aventure continue.
Et nous sommes avec Christian Duguay, qui est le réalisateur de ce deuxième opus.
Bonjour Christian.
Bonjour Christian.
Bonjour, bon matin Laetitia, bon matin François.
Alors juste avant de vous interroger sur ce film, on écoute quelques secondes de la bande-annonce du film.
C'est quoi ça?
C'est un chien.
C'est pas un chien, c'est un ours ça.
Il mord pas.
Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande, c'est clair?
Mais je l'attache pas.
C'est pour votre fils?
C'est tout comme. J'espère que ça va lui plaire. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu.
Mayday, mayday, on a un avari de moteur.
Voilà, Thibaut donc de la bande-annonce de Belle et Sébastien, mercredi au cinéma.
Voilà, alors Belle et Sébastien, c'est un peu une fiction transgénérationnelle parce qu'on a d'abord eu une série mythique des années 60, multi-rediffusée, on a eu un dessin animé japonais et maintenant on a quand même ce long-métrage, enfin le deuxième opus puisque le premier long-métrage est sorti il y a 2 ans. Connaissiez-vous cette série phénomène qui a bercé quand même l'enfance de toute une génération quand même?
Bah bien sûr, il y a plus de 50 ans, je me ruais de l'école à Montréal.
Parce qu'elle passait là-bas aussi.
Sur mon téléviseur, absolument, absolument. Et mon fils de 25 ans s'appelle Sébastien à cause de cette série.
Donc c'est une grande histoire.
La boucle est bouclée.
Quand mon agent Bertrand de l'Abbé m'a appelé pour me dire est-ce qu'une suite de Belle et Sébastien t'intéresse, une suite, j'étais plus ou moins intéressé à faire une suite, mais quand on m'a parlé de Belle et Sébastien, la nature, les animaux, les rapports humains, surtout ce rapport avec le chien, j'étais intrigué. J'ai trouvé que le travail de Nicolas était très fidèle justement à cette série. J'ai retrouvé ses saveurs d'enfance.
Nicolas Bagnier qui a réalisé le premier opus.
Le dernier. Ouais.
Alors vous parlez des animaux. Vous avez tourné avec des chevaux dans Japlou, hein, votre dernier film. Aviez-vous l'expérience d'un tournage avec des chiens?
Bah si, sur j'ai fait plus de 30 films, donc nécessairement il y a eu des moments où j'ai eu à faire avec des chiens, mais pas de façon aussi pointue. Donc j'ai rencontré Andrew Simpson, qui est un Canadien de Calgary, qui est venu me voir à Montréal et avec qui j'ai parlé longuement justement de tout ce qu'il y avait à faire pour ce deuxième opus, parce qu'on pousse un peu plus loin le rapport entre Sébastien et Belle, et oui. Surtout qu'ils partent à l'aventure, qu'ils vont dans des terrains qui sont assez dangereux, notamment des feux de forêt, des exodes d'animaux et tout ça. Donc ça a été très très compliqué à mettre en place. Et Andrew a vraiment cette expérience. Andrew a signé Les Loups, le film de Jean-Jacques Hanau. C'est un monsieur qui a énormément d'expérience.
C'est un dresseur internationalement connu.
Oui, tout à fait.
Alors, on dit que le plus difficile au cinéma est de tourner avec les enfants ou les animaux. Alors là, vous avez été servi, puisque vous avez eu les deux.
Oui, les enfants, les animaux et les climats de montagne. Parce que ça change toujours. Donc, justement, je suis à la montagne. Là. Je suis en Autriche, je suis allé faire du ski. Moi, j'adore le grand air, j'adore les grands espaces. Surtout dans les temps qui courent et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir réunir tous ces éléments. Alors évidemment ça prend une préparation très très pointilleuse, mais j'ai été entouré de collaborateurs vraiment très vraiment extraordinaires.
Très bien, ben merci beaucoup Christian.
Merci
Rappelons
Christian.
Que ce film sort mercredi dans
voilà,
les salles en France.
Et voilà, avec Félix Bossuet qui joue le rôle de Sébastien, Tchéky Cario, Thierry Novick. Et voilà, c'est un deuxième opus très réussi. Bravo Christian et bonne chance pour la sortie du film mercredi.
Voilà, un film à voir en famille bien évidemment, qui tombe à point nommé. On a bien besoin comme ça de divertissement en ce moment. Merci beaucoup Christian.
Merci.
Merci à vous.
Bon dimanche. Au revoir.
Laetitia, on termine ce rendez-vous animaux rapidement avec notre vidéo LOLCAT. Alors là, franchement, si vous avez envie de bien rigoler pendant quelques secondes, on vous invite à regarder cette petite vidéo à retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Ce sont des chiens qui dansent au son de l'accordéon de leur maîtresse.
Voilà, ce sont des chiens nus chinois. Ouais. Et qui se trémoussent.
Alors c'est pas Yvette Horner, hein, je tiens quand même à préciser.
Non, mais ils se trémoussent bien. En tout cas, ils adorent la musique.
C'est vrai.
Et vous allez voir, c'est assez hilarant. Il n'y a aucun trucage, aucun montage et aucune souffrance non plus. Hein. Le chien fait ça parce que il s'amuse à le faire, tout simplement.
Bon, en plus, c'est un chien un peu particulier. Vous savez, c'est ces chiens qui sont nus là, avec simplement des poils comme ça sur la tête. C'est assez étonnant. Donc à retrouver sur la page Facebook.
Voilà. Et puis sur la page Facebook, j'ai eu un message de Joanne pour dire que aujourd'hui, le 6 décembre, au refuge SPA de Chambéry, on fête Noël. Donc c'est les portes ouvertes Noël. Donc si vous êtes dans le coin, si vous voulez adopter pour Noël un animal, eh ben allez au refuge SPA de Chambéry.
Laetitia, on joue maintenant.
Le Grand Noël RMC, spécial week-end avec cdiscount.com.
Voilà, et depuis tout à l'heure 7h, on vous invite à jouer avec nous par SMS pour ce grand jeu de Noël RMC. Et on salue Patrick qui habite Bourg-les-Valences, qui a été tiré au sort. Patrick va donc recevoir cette montre connectée Sony. Voilà un petit bijou de technologie qui vous permet, grâce donc à votre smartphone, puisque c'est connecté en Bluetooth, de recevoir des notifications sur votre montre, par exemple les SMS, les appels, etc. Et vous pouvez même télécharger des petites applis. Voilà, bravo à Patrick. Prochain grand jeu Noël RMC, ça sera à 8h dans notre rendez-vous auto.